Bonjour à chacun. Je suis très très heureux de pouvoir vous apporter de nouveau la parole de Dieu ce matin et surtout de le faire après cet excellent temps de louange que nous avons connu, qui nous prépare, qui nous a magnifiquement préparé à aussi entendre la parole de Dieu. Et j'aimerais lire avec vous dans la suite de l'épître aux Éphésiens que nous méditons depuis un certain temps maintenant. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 1. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 1. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Amen. Seigneur, ta parole est parole de vérité. Conduis-nous dans ta vérité. Amen. Il y a quelques années, je réfléchissais à ce que représentait le royaume de Dieu. Et j'ai vu défiler devant moi une image, l'image de notre globe, une terre très vaste, avec les différents continents. Je voyais ce globe, et partout autour du globe, des lumières. Le globe se tournait, des lumières partout autour de ce globe. Une quantité de petits points brillants. Et toutes ces lumières que je voyais représentaient des porteurs de lumière, des témoins de Jésus-Christ. Il y en avait des centaines de millions dispersés à travers le monde entier. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable de voir combien nous sommes nombreux autour de ce monde. Et le royaume de Dieu est bien plus grand que les habitants d'un seul pays. Ils sont dispersés sur la surface du globe entier. Quelle incroyable puissance de bénédiction. Ce royaume s'étend, il s'étend chaque jour. Ce royaume ne fait pas partie des royaumes de ce monde. C'est un royaume qui représente une alternative, une société alternative, avec d'autres valeurs que celles de ce monde. Ce royaume représente une société nouvelle, une société formée par Jésus-Christ, une société dans laquelle règne la justice, l'amour, la paix. Et en contemplant ce globe avec ses lumières qui brillaient de partout, j'ai comme ressenti une tristesse. Parce que j'ai réalisé que ce royaume présent partout n'avait finalement pas autant d'impact qu'il pouvait en avoir. Si des centaines de millions de chrétiens étaient dispersés autour de la terre, comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de changement sur cette terre? Comment se fait-il que la présence des chrétiens ne transforme pas davantage nos sociétés? Et je me suis dit, mais est-ce que ma foi, est-ce que ce que je confesse dimanche après dimanche change quelque chose dans ma manière de vivre? Je me suis demandé comment l'Église peut-elle être réellement porteuse d'un espoir nouveau dans ce monde? Eh bien, Paul, au début de ce chapitre 4, commence en disant « Marchez, marchez donc d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Comportez-vous d'une manière digne, parce que vous avez été appelé à une espérance et vous êtes porteur d'une espérance. Comportez-vous en fonction de cela. Nous sommes à un tournant de la lettre. Paul dit « marchez donc ». Donc, c'est en fonction de ce qu'il vient de dire dans les trois premiers chapitres. Et qu'a-t-il dit dans les trois premiers chapitres? Il nous a parlé de Dieu, de tout ce que Dieu a fait pour nous, d'un Dieu qui était la source de toutes les bénédictions spirituelles. Dieu nous a bénis en Jésus-Christ. Qu'a fait Dieu pour nous? Il nous a choisis avant même la fondation du monde. Il nous a choisis pour nous incorporer dans un peuple nouveau, une humanité nouvelle. Il nous a choisis parce qu'il nous a aimés. Dieu nous a pardonnés. Dieu nous a réconciliés avec lui. Il nous a réconciliés avec les autres. Dieu nous a donné son esprit pour qu'avec cet esprit nous puissions mener la vie nouvelle à laquelle nous sommes appelés. une vie qui devienne une louange à la gloire de Dieu, une vie qui devienne une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Dieu nous a agrégés à son peuple, un peuple qu'il s'est constitué, un peuple au sein duquel il n'y a plus de barrières, plus de barrières de race, plus de barrières de culture, plus de barrières de dénomination, plus de barrières de genre, de classe sociale, de groupe d'appartenance. Tout cela, Dieu l'a anéanti pour que nous soyons un dans un seul et même peuple, un peuple qui couvre tout le globe. Autrefois, nous étions morts. Nous étions bien loin de Dieu. Nous n'avions aucune vie spirituelle, aucune espérance. Et Dieu a eu compassion de nous. Il nous a rendus à la vie. Il nous a sauvés. Il a voulu que nous entrions dans la vie nouvelle qu'il nous proposait. Le projet de Dieu est un projet de vie, un projet qui est un projet de bénédiction. La bénédiction que nous pouvons apporter autour de nous, mais surtout et aussi la bénédiction que nous pouvons communautairement apporter autour de nous. Voilà tout ce que Dieu a fait pour nous. Dieu n'a pas manqué d'égard. Dieu n'a pas manqué d'amour. Dieu n'a pas manqué de puissance dans tout ce qu'il a fait pour nous. Et maintenant, Paul dit donc, voyez tout ce qu'il a fait. Donc, ça vous amène à quoi? Donc, à cause de tout ce que Dieu a fait pour nous, lui qui nous a rendu la vie, nous devons en tirer les conséquences pratiques. Nous ne pouvons plus vivre comme nous vivions autrefois. Nous ne pouvons plus vivre comme nous vivions quand nous étions sans Dieu. Dans les trois premiers chapitres, Paul fait de la théologie, c'est-à-dire qu'il parle de Dieu et de ce que Dieu a fait. Donc, en fonction de ce que Dieu a fait, nous devons en tirer des implications pratiques. Nous devons entrer dans le champ de l'éthique, du comportement. Ça ne sert à rien de parler de Dieu si cela ne nous amène pas à un changement de vie. La théologie doit nous amener à l'éthique. Quelle va être ma réponse à ce que Dieu a fait pour moi? Comment répondre à tant d'amour? Si Dieu m'a tellement aimé, si Dieu a manifesté un salut tellement puissant, comment pourrais-je rester ingrat, ne pas aimer Dieu en retour, ne pas aimer mes frères et sœurs qu'il m'a donnés dans la nouvelle famille dans laquelle il m'a incorporé? Comment pourrais-je décider de ne pas suivre Jésus en lui obéissant? C'est tout cela qu'exprime le « donc » au début du chapitre 4. Dieu vous a appelé à entrer dans son peuple? Menez donc une vie digne de cet appel. Dieu vous avait choisi avant les fondations du monde pour que vous soyez saints? Donc, marchez d'une manière digne de cet appel. Dieu vous a destiné d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter? Donc, marchez d'une manière digne de cet appel. Vous avez reçu le pardon de vos fautes? Donc, marchez d'une manière digne de cet appel. Donc. Sommes appelés à vivre d'une manière qui correspond à notre statut d'enfant de Dieu. Nous sommes appelés à vivre comme des hommes et des femmes nouveaux, appelés à suivre Jésus-Christ, appelés à suivre Jésus-Christ dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection. Et cela implique que nous nous débarrassions absolument de notre ancienne manière de vivre pour entrer dans une nouvelle manière de vivre, une nouvelle vie. Pour exprimer tout cela, Paul utilise un verbe, marcher, qui veut dire vivez, comportez-vous. Mais j'aime bien garder l'original, marcher. Parce que l'idée de la marche implique l'idée d'un effort. Et non pas d'un effort sporadique, mais d'un effort qui se fait dans la durée. La vie chrétienne, ce n'est pas juste courir un 100 mètres en pensant que nous sommes arrivés au bout. C'est une course d'endurance, une course de fond, où je suis appelé à tenir toute une vie. Quand Paul m'appelle à mener une vie digne, il me dit quelque chose comme « apprends Christ ». Apprends Christ, c'est-à-dire deviens proche de lui, écoute ce qu'il pense, ce qu'il dit, vois ce qu'il fait, et cela va renouveler ta manière de penser, ta manière d'agir. Si tu deviens proche de Jésus, tu vas te laisser influencer par lui, il va renouveler tes pensées, il va changer ton regard sur le monde, il va transformer ta vie pour que ta vie devienne un instrument de bénédiction autour de toi. Ce processus est un processus qui se fait dans la durée, c'est une marche. Devenir à la ressemblance de Jésus, c'est le projet d'une vie tout entière. Il faut bien comprendre ce que ça implique. Ce n'est pas avoir des nouveaux commandements pour dire « tu dois faire ceci et tu ne dois pas faire cela ». c'est plutôt entrer dans une marche, entrer dans une vie nouvelle et se conformer à cette nouveauté de vie. Pour marcher, il faut emprunter une voie. Il faut emprunter la bonne voie. Beaucoup de gens marchent, mais marchent dans la mauvaise direction. Ils empruntent un mauvais chemin. Donc il y a bien un choix de départ qui consiste à entrer dans la bonne voie. C'est la démarche de la conversion, de la nouvelle naissance. Je choisis, au départ de ma vie, d'entrer dans la voie du Christ, de marcher dans la bonne direction. Mais ce n'est pas parce que je m'engage dans la bonne direction que j'ai abouti. Ce n'est que le début de mon itinéraire. Je dois marcher jusqu'au bout. Je dois marcher en fonction du but qui se trouve au bout de la course. Donc, pour arriver au but, il faut marcher dans la bonne direction. Mais ensuite, il faut persévérer. Persévérer encore. Le but ne sera atteint qu'au terme de ma vie. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que je ne peux pas changer en un seul coup. Que le changement auquel je suis invité ne se fait pas entièrement à l'origine, mais c'est un changement progressif, graduel, qui va se faire jusqu'à la fin de ma vie. C'est ça la vie chrétienne. Et si moi je ne peux pas changer complètement d'un seul coup, peut-être que cela je peux en être conscient, je me rends bien compte en m'examinant que je ne suis pas encore là où je devrais être, mais c'est une implication aussi dans mon regard sur les autres, sur mon frère ou ma sœur. Ce qui est vrai pour moi est aussi vrai pour mon frère ou ma sœur. Lui non plus ou elle non plus ne peut pas changer en un instant. Ça signifie qu'il va me falloir beaucoup de douceur, beaucoup de patience avec celui qui peut m'exaspérer, celui qui ne fonctionne pas comme moi, celui qui a des habitudes différentes, celui qui a une manière d'exprimer sa foi autre que la mienne. Je devrais avoir de la douceur, de la patience et de la persévérance. Tout comme les autres devront avoir de la patience à mon égard, parce que je suis aussi en chemin. Mais s'il faut du temps dans la marche chrétienne, cela ne justifie en rien que j'attende avant d'entamer ces changements. Ce changement commence au début de mon itinéraire. Dieu m'a fait entrer dans un chemin nouveau, un chemin de transformation. Et Dieu veut que j'apprenne à me conformer en fonction de l'idéal, en fonction de la réalité du salut à laquelle il m'appelle. Prenez l'exemple de la chenille. La chenille mène sa vie jusqu'à ce qu'elle devienne une chrysalide, elle passe par un processus de transformation qui est complètement radical, qui lui donne des ailes, qui fait d'elle un très joli insecte, des couleurs magnifiques, elle devient une forme de lumière dans ce monde. Mais imaginez que ce papillon qui éclot continue à se comporter comme une chenille, à ramper par terre, à passer d'une branche à l'autre, mais de manière très lente. Qu'elle ne prenne jamais son envol. Ce serait quand même un papillon un peu bizarre. Il est appelé à une nouvelle vie parce qu'il est passé par une transformation. Eh bien, moi de même, je suis passé par une transformation, appelé à une nouvelle vie. Il faut que je prenne mon envol. Et Paul nous explique dans ce texte comment prendre notre envol. Nous sommes un peuple nouveau. Nous avons des valeurs à mettre en œuvre pour devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Dieu nous a incorporés à un peuple. Je ne suis pas un croyant isolé. Toute la réflexion de Paul consiste à se dire comment je peux mener cette vie nouvelle au sein du peuple dans lequel Dieu m'a incorporé. Comment nous pouvons ensemble aller dans la même direction? Comment nous pouvons rester unis, garder une cohésion? Et Paul mentionne 5 vertus. Et je vais m'attarder sur ces 5 vertus. Il parle de l'humilité, de la gentillesse, de la patience, de la tolérance, et de l'amour. Voilà les 5 vertus qui nous sont données pour vivre la dynamique du peuple de Dieu. Voilà comment nous pouvons marcher d'une manière digne. Vous allez me dire, ce ne sont pas vraiment des valeurs qui sont en vogue. Ce ne sont pas vraiment les valeurs que l'on voit sur les publicités. L'humilité, la gentillesse. Vous voyez une publicité où on parle beaucoup d'humilité, de gentillesse et de patience, de tolérance et d'amour? Non, notre société parle plutôt de réussite, de réalisation de soi, de culte de la performance, quitte à marcher sur les autres pour avancer. Mais avec Christ, on a un renversement des valeurs. Au lieu du pouvoir, au lieu de la force, nous sommes invités à l'humilité. L'humilité, c'est renoncer à vouloir être le premier, à vouloir être celui qui domine les autres. C'est renoncer à chercher la reconnaissance, à vouloir s'attirer tous les honneurs, Être humble, c'est arrêter de vouloir être au centre du monde, de penser qu'il n'y a que nous. C'est un décentrage pour nous centrer sur Dieu. Voilà la première vertu qui nous est proposée. La deuxième vertu, c'est celle de la gentillesse. Au lieu d'asséner nos vérités crûment aux autres en leur disant ce que l'on pense sans s'inquiéter des conséquences que cela peut avoir, nous sommes invités à la gentillesse. Pour être gentil, nous devons renoncer à la rudesse. Nous devons renoncer à la violence. On ne peut pas avoir des relations saines avec les autres si on leur assène simplement nos quatre vérités comme cela, sans se rendre compte du dommage que cela peut occasionner. Être gentil, ça paraît une valeur désuète. Aujourd'hui, on ne va pas dire vous devez être gentil, on va plutôt dire vous devez vous affirmer. Vous devez apprendre à poser des limites dans votre vie, à ne pas dire oui à tout, et puis ensuite à le regretter. Et c'est pas tout faux. Nous devons effectivement apprendre à poser des limites. Mais est-ce que nous devons toujours chercher à défendre notre droit? N'y a-t-il pas certains moments où nous devons apprendre à céder? Est-ce que Jésus n'a pas dit, dans le sermon sur la montagne, « Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. » Jésus n'invite pas à la lâcheté, mais il encourage ses disciples à ne pas répliquer au mal par le mal. À répondre au mal en faisant le bien. Et la gentillesse, ce n'est rien d'autre que désirer ne pas blesser l'autre, ne pas lui vouloir du mal. C'est donner de la valeur à l'autre. Et je suis sûr que vous allez être nombreux à reconnaître avec moi que ce n'est pas facile d'être gentil. Ce n'est pas facile d'entrer dans ces vertus qui nous sont décrites. Et c'est pour cela que Paul décrit cela comme une marche. Nous n'y arriverons pas du premier coup. Mais notre objectif, c'est de marcher dans ce chemin de la gentillesse, de marcher dans ce chemin de l'humilité. Et Paul rajoute une troisième vertu. Nous sommes dans une société qui veut toujours tout, tout de suite. Et parfois ce tout de suite, quand nous sommes dans le domaine des relations, conduit à avoir des relations dures. Nous avons des attentes à l'égard des autres qui ne laissent pas le temps aux autres de changer, de progresser. Et Paul nous dit « Ayez de la patience. Renoncez à la tyrannie de votre agenda pour transformer les autres. Laissez le temps aux autres de changer, de grandir, de se développer. » Paul amène une quatrième vertu, qui est celle de la tolérance. Face à la tolérance, nous avons souvent envie d'imposer notre volonté. Or, la tolérance, c'est apprendre à renoncer à nos droits. Aussi important que puissent être nos droits, quand nous commençons à les revendiquer, nous pouvons entrer dans des relations rudes, des relations qui offensent, des relations qui vont amener de l'injustice. Et il vaut mieux parfois renoncer à nos droits et viser la tolérance, plutôt que de casser des relations. La cinquième vertu qui nous est proposée, c'est celle de l'amour. Quand les choses ne vont pas comme nous aimerions dans les relations, la colère peut arriver en nous. Cette colère, si nous la laissons, jointe aux frustrations, peut amener de l'amertume. Et quand nous laissons de la place à l'amertume, cette amertume se transforme en haine. Tout le contraire de l'amour. Or, aimer, c'est la voie de Jésus-Christ. Aimer, ce n'est pas juste avoir des bons sentiments. Aimer, c'est un choix. C'est mettre ma volonté en œuvre. Ça ne vient pas tout seul. Je choisis d'aimer. Cela implique ma volonté. On a parfois une vision très romantique de l'amour. On pense que pour aimer, il faut avoir des sentiments où tout est rose, tout va bien. Aimer au sens où Jésus nous y invite, c'est faire le choix de vouloir du bien pour l'autre. Comment est-ce que je peux aimer quelqu'un qui m'a fait du mal, quelqu'un qui m'a blessé, quelqu'un qui m'exaspère par ses comportements? Eh bien, regardons à Jésus. Il a été méprisé, il a été rejeté, il a été humilié, il a été maltraité, il a dû ressentir tout autre chose que des élans d'affection pour ses ennemis quand on lui posait une couronne d'épines sur la tête. Mais quelle a été sa réponse? Il s'est tu pour qu'on ne sorte pas de sa bouche des paroles mauvaises. Et puis à la croix, il a dit « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Dieu nous a choisis, par amour, pour que nous puissions aimer à notre tour. Aimer ceux qui ne sont pas aimables. Aimer, ce n'est pas une option dans la vie chrétienne. Je ne peux pas être croyant et ne pas aimer. Paul m'invite à entrer dans ce chemin qui est fait, je le rappelle encore une fois, d'humilité, de gentillesse, de patience, de tolérance et d'amour. Voilà l'itinéraire de la vie chrétienne. Voilà 5 valeurs qui me disent comment je peux marcher d'une manière digne. Encore une fois, ce n'est pas suivre juste des « tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela ». C'est une dynamique, c'est une démarche, c'est un chemin. C'est être conséquent avec ce que Christ a fait de nous. Marcher de manière à montrer que vous n'êtes qu'une seule famille. Voilà le premier accent que Paul va mettre. Nous verrons au cours des chapitres 4, 5 et 6 que Paul va souligner d'autres aspects qui touchent les relations que nous avons les uns avec les autres. Mais Paul commence par l'unité de la famille de Dieu. Voilà où nous devons mettre ces valeurs en œuvre, au sein de notre propre famille spirituelle. Dieu nous appelle à être unis. Il n'y a qu'une seule Église, il n'y a qu'un seul chef de l'Église, Jésus-Christ. Et cette Église, qui est une, est dispersée sur l'ensemble de notre globe. Elle est fondée et formée de tous ceux qui confessent que Jésus-Christ est leur Seigneur et leur Sauveur. Cette Église, elle est composée de tous ceux qui ont choisi d'appartenir à Jésus-Christ et qui sont au bénéfice du pardon de Jésus-Christ. C'est une Église dans laquelle il n'y a plus de barrières de race, de culture ou de langue. Et avec ce peuple nouveau, Dieu veut transformer notre société de l'intérieur, comme le levain qui fait lever toute la pâte. Nous sommes ce levain qui doit faire lever toute la pâte. Nous sommes un ferment, ferment d'une transformation de ce monde. Et nous devons être unis pour que puisse se faire cette fermentation et cette transformation du monde. Comment pouvons-nous être espoir de ce monde si nous sommes divisés entre nous? Cette vision est tellement fondamentale que Paul va affirmer 7 fois à partir du verset 4 qu'il n'y a qu'un seul corps, qu'un seul Christ, qu'un seul Dieu. Il commence par dire « il n'y a qu'un seul corps », donc un seul peuple de Dieu, une seule famille. Il ne peut pas y avoir plusieurs églises, plusieurs familles chrétiennes. Pourquoi ? Parce que Christ est un. Il n'y a pas plusieurs Christ et il n'y a donc pas plusieurs églises. Et de la même manière, il ne peut y avoir qu'un seul esprit. Il n'y a pas l'esprit des pentecôtistes, l'esprit des baptistes, l'esprit des libristes, l'esprit des catholiques. Il n'y a qu'un seul esprit. Et l'esprit donne l'unité des croyants. C'est lui qui nous fait entrer dans la famille de Dieu. C'est lui qui fait que nous n'appartenons qu'à un seul corps. Certains pensent parfois être plus spirituels, en pensant avoir plus l'esprit que les autres. Mais il est important de rappeler que nous avons tous reçu le même esprit, sinon nous ne serions pas dans la même famille. L'esprit n'est pas quelque chose que l'on peut posséder, c'est un cadeau qui nous est fait. Et s'il n'y a qu'un seul corps, et qu'il n'y a qu'un seul esprit, il n'y a de même qu'une seule espérance. Nous n'avons qu'un seul objectif, le même objectif. Un jour nous nous retrouverons tous au ciel. Un jour nous partagerons tous le même repas à la table du roi des rois. Et c'est pour cela que déjà ici-bas, nous devons nous efforcer de vivre cette réalité-là. Et Paul continue en disant, il y a un seul Seigneur, et donc une seule foi qui est valable, la foi au Seigneur Jésus-Christ, qui est mort, qui est ressuscité. Celui qui ne confesse pas que Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour lui donner une nouvelle vie, celui-là ne fait pas encore partie de la famille. Mais tous ceux qui croient que Jésus est homme et Dieu, tous ceux qui confessent que Jésus a accompli tout ce qui était nécessaire à leur salut, tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ font partie du même corps, indépendamment du nom de l'Église qu'ils fréquentent. Et de même, si le baptême témoigne de la réalité de notre nouvelle naissance, si le baptême exprime notre mort et notre résurrection avec Christ, il ne peut y avoir qu'un seul baptême. Il est ainsi exclu que nous puissions rebaptiser quelqu'un, comme si nous étions une église meilleure que l'église voisine. Le baptême ne dépend pas de l'église, le baptême dépend de l'œuvre du Christ. Et remarquez que Paul, dans ce texte, ne se préoccupe pas de la forme du baptême. Il nous dit simplement que le baptême atteste que nous appartenons à la même famille. Or, bien sûr, se pose la question aujourd'hui, au XXIe siècle, du baptême des enfants. Quel statut accorder? Nous qui sommes de conviction baptiste, nous comprenons l'Écriture à propos du baptême comme d'un baptême qui a été fait comme un témoignage de la mort et de la résurrection que nous avons vécu avec le Christ. Or, ce témoignage, un bébé ne peut pas encore le faire. Ce n'est pas que le baptême d'enfant n'aura pas de valeur, mais il n'a pas la valeur de confession qui nous est décrite en lien avec le baptême tel que nous le comprenons dans l'Écriture. Paul termine en disant qu'il n'y a qu'un Dieu et Père de tous. Tous les enfants de Dieu ont le même Père. Ils croient tous dans le même Dieu, quelle que soit la dénomination à laquelle ils sont attachés. C'est le même Dieu qui agit dans l'ensemble des croyants. Et si Paul dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est pour réaffirmer qu'il n'y a qu'une seule Église. L'unité de l'Église est aussi indestructible que l'unité de Dieu. On ne peut pas davantage multiplier les Églises qu'on ne peut multiplier Dieu. Alors vous allez peut-être me dire ce matin, mais pasteur, ouvrez les yeux, regardez autour de vous, voyez bien que l'Église est divisée dans le monde. Combien souvent l'Église semble s'être divisée au cours de l'histoire? Et Paul n'ignore pas cette réalité. Vous savez, déjà au premier siècle, alors que Paul écrit, il doit faire face à des menaces de division dans la toute première Église, dans les Églises qu'il a lui-même créées. Est-ce que dans l'Église de Corinthe, il n'y a pas plusieurs parties? Est-ce qu'il n'y a pas des faux enseignants déjà dans les Églises de la Galatie? Des enseignants qui cherchent à diviser les chrétiens? Paul connaît le danger, il ne l'ignore pas. Mais il dit au verset 3, « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. » Il n'y a qu'une seule Église. Faites donc tout pour vivre cette réalité. Conservez l'unité qui vous a été donnée. Vivez les valeurs du royaume. Soyez humbles, gentils, patients, tolérants, aimables les uns vis-à-vis des autres. Nous sommes forcément repris ce matin, parce que nous sommes tellement prompts à vouloir nous déchirer, à faire valoir nos différences. Nous offrons si souvent un contre-témoignage dans ce monde. Ce qui est visé dans ce texte, ce n'est pas une unité institutionnelle pour que l'on aboutisse à une seule dénomination. Ce qui est visé dans ce texte, c'est l'unité des cœurs, l'unité d'action. Et nous ne devrions ménager aucun effort pour vivre l'unité que nous donne l'Esprit. Il ne s'agit pas de créer l'unité, mais il s'agit d'y entrer. Il s'agit de la vivre. En fait, et je vais terminer par là, j'aimerais poser la question de savoir qu'est-ce qui pourrait être plus important que Jésus-Christ pour que cela mérite que nous nous séparions. Devrions-nous nous séparer parce que nous aurions un avis différent sur la manière de structurer l'Église, ou un avis différent sur tel point secondaire de doctrine, ou sur la manière dont nous pouvons vivre des temps de louange, ou la conception que nous avons de l'évangélisation, ou la compréhension que nous avons des dons spirituels? Vous savez, ce qui nous unit en Jésus-Christ est infiniment plus précieux que toutes ces divergences que nous pouvons avoir. Réfléchissez, ceux qui aiment Jésus-Christ n'ont-ils pas infiniment plus en commun que ceux qui sont par exemple membres d'un même parti politique en France? N'ont-ils pas infiniment plus en commun que les différences de culture que pourrait avoir un Français, un Américain et un Chinois? Et pourtant, un Français, un Américain et un Chinois qui aiment Jésus-Christ ont infiniment plus en commun que ce qui pourrait les diviser de par leur culture. Un chrétien de l'association baptiste, et un autre d'une assemblée de Dieu, et un autre encore qui serait un croyant d'une église réformée ou catholique qui aime Jésus-Christ, qui a été transformé dans sa vie par Jésus-Christ, n'ont-ils pas infiniment plus en commun que tout ce qui pourrait les séparer? Ça ne veut pas dire, comprenez-moi bien, qu'il n'y a pas de problème de doctrine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à corriger ici et là. Mais ce que nous avons en commun ne compte-t-il pas plus que ce qui pourrait nous diviser? C'est la question que nous pose l'apôtre Paul ce matin. On peut avoir des églises diverses, mais quand même être unis de cœur, parce que nous avons le même Seigneur, le même Dieu, la même unité dans l'Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit en tous et qui est en tous. Marchez donc dans l'unité. Dans l'unité au sein de l'Église locale, mais aussi dans l'unité au sein du corps de Christ. Marchez d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Faites preuve d'humilité, de douceur, de patience, de tolérance, d'amour. pour que vous restiez liés les uns aux autres, que nous gardions des liens fraternels, des liens qui sont empreints de paix. Telle est la volonté du Seigneur pour nous ce matin. Amen.